Retour ce matin encore sur le procès pour les emplois fictifs à la province sud. Philippe Gomès et Philippe Michel notamment ont été condamnés. Réaction, mais aussi évidemment explication dans ce journal. La délégation aux Outre-mer vote le rapport sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Le texte formule 15 recommandations pour, je cite, « éviter la spirale infernale d'un profond dépérissement que vit la Nouvelle-Calédonie ». 2,5 tonnes de cocaïne interceptées au large du territoire. L'armée a repéré un bateau suspect. À son bord, 7 personnes qui ont été placées en garde à vue. En métropole, un homme de 33 ans mis en examen pour incendie involontaire dans l'Aude. Il transportait un barbecue mal éteint dans sa remorque, mais il roulait aussi sans permis et sans assurance. L'Algérie confirme la peine à l'encontre de Boualem Sansal. Comme en première instance, l'auteur franco-algérien est condamné à 5 ans de prison. La France demande désormais au président Tebboune de le gracier. Le sport et pas de nouvelle médaille d'or pour les cagous au mini-jeu du Pacifique. Clara Delunel s'offre tout de même l'argent sur le 400 mètres 4 nages. La météo, le temps est gris et pluvieux pour aujourd'hui. Les températures maximales sont stables et comprises entre 24 et 28 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité judiciaire sur le territoire.
Oui, Philippe Gomès et Philippe Michel frappés donc d'inéligibilité avec exécution provisoire. Les responsables de Calédonie Ensemble ont en effet été condamnés hier matin dans l'affaire des emplois fictifs à la province sud. Ils ont été reconnus coupables par le tribunal de détournement de fonds publics ou de complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire dite des emplois fictifs, Jean-François Baudin.
Le procès s'était tenu du 12 au 16 mai dernier. Philippe Gomès, Philippe Michel, Martine Lagneau, Soutita Siolagadec et Fiou Mouliakaa avaient comparu pour s'expliquer sur l'embauche par la province sud, alors présidée par Philippe Michel, de 44 chefs coutumiers wallisiens et futuniens, et surtout sur leur rôle. Les 5 prévenus étaient soupçonnés en fait d'avoir détourné ces embauches provinciales au profit du parti Calédonie Ensemble. Lors du procès, les avocats des prévenus avaient tenté de mettre en avant le rôle légitime de ces collaborateurs de terrain choisis pour leur ancrage local et souligner l'absence de preuves d'emploi fictif. Des arguments rejetés par le tribunal qui a considéré dans sa décision que les élus incriminés avaient sciemment mis en place un système frauduleux de recrutement de ces collaborateurs dont le seul objectif était de promouvoir l'activité politique de Calédonie Ensemble avec des visées électoralistes. Le tribunal a donc considéré que l'infraction de détournement de fonds publics était caractérisée. Dans sa décision, il a donc suivi globalement les réquisitions du ministère public. Seul Martine Lagneau a été relaxé. Philippe Gomès est condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, et un aménagement de peine pour la partie prison ferme sous bracelet électronique. Philippe Michel écope d'une peine de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis et aménagement de peine sous bracelet électronique pour la partie prison ferme. Ces deux élus, encore en activité, sont également frappés d'une peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Siutita Siolagadec est condamné à 2 ans de prison avec sursis et Fiou Mouliakaa à 18 mois avec sursis. Eux aussi sont frappés d'une peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Des peines contestées par l'avocat de Philippe Michel et de plusieurs prévenus, maître Frédéric de Gréland, qui annonce que ses clients feront appel.
On l'a vu avec la longueur de l'exposé pour justifier cette décision. C'est une longueur qui est carrément inhabituelle et qui a nécessité de longs développements. Pourquoi ? Parce que c'est une affaire qui, juridiquement, est très complexe. Donc évidemment, on n'est pas d'accord avec cette décision. Évidemment, nous allons faire appel pour les personnes qui ont été condamnées. Et ce débat, on le mènera jusqu'au sommet de la juridiction, c'est-à-dire que le cas échéant, il faudra aller jusqu'à la Cour de cassation pour dire le droit. Parce que dans cette affaire, il y a des tas d'éléments qui résultent d'une interprétation de la loi. Et la loi, pour qu'elle soit interprétée de façon uniforme, à un moment donné, il faut que la Cour de cassation se prononce. Donc je pense que ce débat, on l'aura, je peux vous le dire dès maintenant, hein, quelle que soit la décision de la Cour d'appel, ça sera certainement le parquet ou nous, mais de toute façon, ce débat, il sera mené jusqu'à son terme devant la Cour de cassation.
Au-delà des peines de prison, Philippe Gomès, Philippe Michel, Siutita Siolagadec et Fiou Mouliakaa sont condamnés à une peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, ce qui n'étonne pas maître de Gréland.
C'est la mode, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est la mode, c'est comme ça. On l'a fait dans différentes décisions précédentes. Et je dois dire que les juridictions, quelles qu'elles soient, ne sont pas insensibles au phénomène de mode. Donc maintenant, on colle des exécutions provisoires quand on condamne. Et très bien. Bah, nous ferons appel de ça aussi. Et puis le cas échéant, on verra, parce que je n'ai pas vu mes clients pour le moment, s'il y a lieu de faire une demande de suspension de cette exécution provisoire.
Et en ce qui concerne cette décision d'inéligibilité avec exécution provisoire, Calédonie Ensemble indique sur sa page Facebook vouloir déposer dans les prochains jours un référé de suspension devant la Chambre de l'instruction et un recours au fond devant le Conseil d'État en ce qui concerne cette décision. D'autre part, Philippe Gomès, Philippe Michel et Calédonie Ensemble sont condamnés à verser conjointement 116 millions de francs à la province sud au titre du préjudice subi, puisque les collaborateurs recrutés et payés par la province ont travaillé exclusivement à expliquer le tribunal au profit de Calédonie Ensemble, ce qui satisfait le bâtonnier maître Philippe Reuter, avocat des parties civiles, en l'occurrence de la province sud dans ce dossier.
Toutes nos demandes financières ont été satisfaites, puisque effectivement la province sud avait exposé avoir subi un préjudice du fait des salaires qui avaient été dispensés pendant toute cette période. Et effectivement, un jugement de condamnation est tombé à cet égard. C'était logique, d'ailleurs, s'il y avait un jugement de culpabilité.
Au-delà des condamnations financières, il y a la peine d'inéligibilité. Qu'est-ce que vous en pensez ?
La peine d'inéligibilité, si vous voulez, elle est tout à fait classique et logique en la matière. Si vous avez un jugement de culpabilité, vous avez automatiquement une peine d'inéligibilité. Donc c'est tout à fait normal.
Cette peine d'inéligibilité avec exécution provisoire va avoir des conséquences politiques et institutionnelles. Le haut commissaire va être destinataire dans les prochains jours du jugement du tribunal correctionnel. C'est lui qui devra ensuite signifier aux intéressés leur démission d'office. À partir de cet instant, Philippe Michel et Philippe Gomès ne pourront plus siéger ni à la province sud ni au Congrès, où ils doivent être remplacés par leurs suivants de liste. Il s'agit de Martine Lagneau et de Pierre Ferbanque à la province sud et de Nina Julier et Jean Keys au Congrès. Nina Julier ayant quitté Calédonie Ensemble pour fonder Génération NC avec Nicolas Metzdorf, elle ne siégera pas sur les bancs de Calédonie Ensemble, qui pourrait ainsi perdre son groupe politique, ce qui pourrait entraîner des changements en cascade, notamment à la commission permanente. Les prochains jours devraient permettre d'en savoir plus sur ces éventuels changements.
Et cette condamnation à une peine d'inéligibilité de Philippe Gomès est un véritable coup de tonnerre politique, à tel point, Elisabeth Noir, que lui-même ne veut pas y croire.
Philippe Gomès avait annoncé à plusieurs reprises qu'il voulait mettre un terme à sa vie politique, mais c'est la justice qui s'en sera chargée avec cette exécution provisoire qui lui fait perdre ses mandats de conseiller à la province sud et au Congrès, alors qu'il a été sur le devant de la scène politique calédonienne depuis au moins 2004. C'est l'année où il s'empare du pouvoir en chassant Jacques Lafleur de la province sud à la tête de l'Avenir Ensemble, un parti qui éclatera en 2007 et il créera alors Calédonie Ensemble. Il sera ensuite membre, puis président du gouvernement, député de la première circonscription de 2012 à 2022 et élu sans discontinuer à la province sud et au Congrès. Un responsable politique omniprésent dont les choix politiques ont souvent été controversés et ambigus et qui se sont souvent construits en opposition avec sa famille politique, au point qu'il a souvent été soupçonné d'être partisan, malgré ses protestations, d'une indépendance association. Comme pour accréditer ses soupçons, il a d'ailleurs largement soutenu ces dernières semaines le projet Valls, dont il est encore l'un des supporters. Ses démêlés avec la justice ne datent pas d'hier, mais Philippe Gomès avait jusque-là toujours échappé à la condamnation. C'est ce que rappelle Calédonie Ensemble dans un long communiqué qui explique que la décision d'hier est en l'espèce totalement contraire à celle rendue par quatre magistrats du parquet et du siège qui ont considéré en 2013 et 2014 que les faits incriminés n'étaient en rien constitutifs d'un délit. L'environnement juridique n'ayant aucunement changé depuis 2014, Calédonie Ensemble s'étonne de cette condamnation. Elle annonce qu'elle fait appel de la décision du tribunal correctionnel et qu'elle déposera dans les prochains jours un référé suspension et un recours au fond devant le Conseil d'État en ce qui concerne la décision d'inéligibilité avec exécution provisoire rendue par le tribunal correctionnel. Une inéligibilité qui semble pourtant inéluctable, et sur sa page Facebook, Sonia Backès publie un long post intitulé « Le fossoyeur de la Nouvelle-Calédonie enfin condamné ». Elle indique que la carrière politique de Philippe Gomès est faite de petites ou de grandes décisions qui ont ruiné la Calédonie et déclare qu'elle ne peut que se satisfaire de la fin programmée de sa vie politique. Sonia Backès relève toutefois que cette fin programmée n'arrivera sans doute pas dans les prochains jours, que Philippe Gomès se battra jusqu'au bout pour être autour de la table des négociations et qu'il pourra sans doute compter sur le ministre d'État pour l'y imposer. Il restera encore peut-être élu, utilisant tous les subterfuges juridiques pour continuer son œuvre de destruction, ajoute la chef de file des loyalistes. Mais nous serons là, conclut-elle, pour rappeler la décision de justice sans concession qui l'a condamné. Sa parole ne peut plus être entendue après cela. Et c'est effectivement l'une des questions qui se posent. Après cette condamnation, Philippe Gomès peut-il être autour de la table des négociations pour parler de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ?
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Justement, après sa condamnation à une peine d'inéligibilité dans l'affaire des emplois fictifs, Philippe Gomès peut-il, selon vous, participer aux négociations sur l'avenir? Si vous pensez qu'il peut y participer, alors vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Je vous donne également la réponse à la question d'hier. 64% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le sommet de Paris sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ne permettra aucune avancée. Ils sont 27% qui se disent donc en attendre surtout des avancées dans le domaine de l'avenir institutionnel et ils sont 9% à en attendre plutôt des avancées dans le volet économique et sociétal. Merci bien entendu pour votre participation et rendez-vous donc demain pour la réponse à la question du jour, puisque je rappelle en effet que c'est ce soir pour nous que débute le sommet consacré à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, à l'initiative du président de la République. On vous a donné évidemment le sommaire de ce sommet. C'est Emmanuel Macron qui prendra la parole en ouverture de ce sommet à 15h à l'Élysée. Il sera minuit, heure de Nouméa. Les négociations politiques débuteront dès le soir même à l'hôtel Hilton de Bougival, où seront hébergées les délégations. Des négociations qui se poursuivront sans échéance prédéterminée. Et parallèlement, un collège économique et sociétal se déroulera au ministère des Outre-mer jeudi matin jusqu'à vendredi midi. Il portera sur 4 grands thèmes, les finances publiques, le nickel, la diversification économique et le projet de société. Ces réunions sur les thèmes économiques et sociétales seront donc menées également en visioconférence depuis le Haut Commissariat à Nouméa pour permettre à d'autres participants d'intervenir à distance. Et c'est le ministre des Outre-mer qui animera ces échanges. Il faut noter que l'ensemble des participants au sommet sera associé à ces séquences de travail en fonction de leur champ de compétences. Toujours à ce sujet, un communiqué commun également des délégations loyalistes et rassemblements qui affirment participer à ce sommet dans l'espoir de sortir enfin de l'incertitude politique qui paralyse notre territoire depuis 2021. Les loyalistes et le rassemblement réaffirmeront avec clarté leur attachement à une Nouvelle-Calédonie française. Je cite « Nous porterons la vision d'une société calédonienne ouverte et multiculturelle, farouchement opposée à la montée du communautarisme et au repli identitaire. Ils plaideront aussi pour le transfert des compétences supplémentaires aux provinces, notamment les compétences fiscales et de droit du travail. Selon les loyalistes et le rassemblement, la négociation autour des compétences entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et l'État devra se faire à la lumière des capacités financières du territoire mises à mal par l'insurrection du 13 mai 2024. Fin de citation de ce communiqué commun signé des loyalistes et du rassemblement LR. Et puis à la veille de ce rendez-vous, les députés de la délégation aux Outre-mer ont voté le rapport sur la situation en Nouvelle-Calédonie. On se souvient que David Riemann, son président, et Philippe Gosselin étaient venus sur le territoire aux côtés des deux députés calédoniens pour rencontrer les différents acteurs du dossier. Ce texte formule finalement 15 propositions pour, je cite, « éviter la spirale infernale d'un profond dépérissement que vit la Nouvelle-Calédonie ». Écoutez le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf.
Il faut aussi que nos décisions politiques soient en phase avec la réalité. C'est le général de Gaulle qui disait ça. Il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités. Et la seule réalité aujourd'hui qu'on connaît en Nouvelle-Calédonie, c'est que ce territoire est devenu ultra dépendant de la métropole. On peut le regretter, mais c'est une réalité.
Et j'ajoute que le député de la seconde circonscription, Emmanuel Chibaou, participait également à cette séance de la délégation aux Outre-mer. Il est lui aussi co-rapporteur. Il est 6h44, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité en métropole et notamment cette motion de censure qui a été rejetée.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Retrouvez-nous le jeudi 3 juillet à 18h à l'Université de la Nouvelle-Calédonie pour le ciné-débat « Empreinte océan sur les tortues marines ». Découvrez l'engagement passionné des scientifiques et des communautés locales qui travaillent ensemble pour protéger ces créatures emblématiques et pour préserver leurs précieux sites de ponte. Venez assister à la projection de l'émission « Empreinte océan » et posez vos questions en direct aux experts et scientifiques. Ouvert à tous et gratuit. Alors rendez-vous le jeudi 3 juillet à 18h à l'UNC à Nouméa.
Très bonne nouvelle, le Passeport Gourmand lance sa 22e édition. Profitez de réductions jusqu'à moins 50% dans une sélection de restaurants, snacking, traiteurs, mais aussi des loisirs et du bien-être partout en Calédonie. Le Passeport Gourmand, c'est votre guide de découverte prestigieux, idéal pour les bons vivants et les gourmands du caillou. Disponible dès maintenant en édition limitée, alors ne tardez pas, réservez le vôtre sur www.passeportgourmand.nc ou directement au bureau à Val-Plaisance. Renseignements au 25 25 02.
Avec Nescafé, chaque pause peut te faire gagner une surprise.
Du
1er juillet au 31 août, tente de trouver une dosette dorée dans tes boîtes Nescafé Stick préférées pour avoir une chance de gagner l'un des 15 lots high-tech.
iPhone, console, casque ou enceinte JBL, appareil photo, tablette, il y en a pour tous les goûts.
Alors rends-toi vite en magasin et trouve la dosette dorée Nescafé.
Gagne des cadeaux bonus en jouant sur la page Facebook Nescafé NC ou directement chez Nestlé. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 1er juillet au 31 août 2025. Voir règlement complet chez Nestlé ou sur la page Facebook Nescafé NC.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Il était environ 5h30 ce matin lorsque la motion de censure a été rejetée à l'Assemblée nationale. Le texte déposé par le Parti socialiste après l'échec du conclave sur les retraites n'a recueilli que 189 voix. Loin donc des 289 voix nécessaires pour son adoption. Le RN ayant décidé de ne pas censurer le gouvernement. François Bayrou reste donc en poste à Matignon et il échappe ainsi à sa 8e motion de censure depuis sa nomination comme Premier ministre. Toujours à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté le projet de loi pour refonder Mayotte. Plus de 6 mois après Chido, ce cyclone qui a dévasté l'île, le texte a recueilli 367 voix pour et 109 contre. Déjà adopté en mai par le Sénat, le texte doit désormais faire l'objet d'un compromis entre sénateurs et députés la semaine prochaine. Ce sera lors d'une commission mixte paritaire avec une probable adoption définitive dans la foulée. Dans le reste de l'actualité en métropole, le responsable présumé de l'incendie dans l'Aude, placé en détention provisoire. Il s'agit d'un traiteur qui transportait un barbecue mal éteint dans une remorque. Il a été mis en examen pour incendie involontaire. L'homme de 33 ans circulait sur l'autoroute Toulouse-Narbonne au retour d'un mariage. Et quand il a vu de la fumée derrière son véhicule, il s'est arrêté, a tenté de l'éteindre. Puis il a alerté les pompiers, explique le procureur de la République de Narbonne, Éric Camus, qui indique par ailleurs qu'il avait des antécédents judiciaires.
Il avait malgré tout été plusieurs fois condamné pour des infractions d'imprudence liées à des conduites en état alcoolique, sous l'emprise de stupéfiants. Au moment des faits, il ne possédait plus le permis de conduire, il n'avait pas d'assurance professionnelle et son véhicule n'était pas assuré.
L'homme encourt 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. L'incendie qui a parcouru 400 hectares a engendré l'évacuation d'un camping, d'une abbaye et d'habitations, mais aussi la fermeture de l'autoroute A61. 600 pompiers ont été mobilisés.
À Radio Rythme Bleu, 6h47.
La justice algérienne confirme la peine à l'encontre de Boualem Sansal. La cour d'appel d'Alger prononce la même condamnation qu'en première instance à l'encontre de l'écrivain franco-algérien. C'est-à-dire 5 ans de prison. Il reste donc incarcéré 227 jours après son arrestation à l'aéroport d'Alger. Et maintenant, il ne reste plus qu'un seul espoir, une possible grâce présidentielle dans les tout prochains jours, William Molinier.
Oui, l'avenir de Boualem Sansal est désormais suspendu à la seule volonté d'Abdelmadjid Tebboune et d'une hypothétique grâce présidentielle qui pourrait intervenir ce samedi, jour de la fête de l'indépendance, au cours de laquelle le président algérien accorde traditionnellement des grâces aux prisonniers. C'est en tout cas l'espoir du gouvernement français. Et c'était la ligne du Quai d'Orsay, ne surtout pas tendre la relation déjà difficile avec Alger pour ne pas mettre en difficulté les perspectives d'une libération, posture qui avait même entraîné jusqu'au retrait à l'Assemblée nationale d'une proposition de résolution sur les relations franco-algériennes. Car au sein du gouvernement, c'est l'argument humanitaire qui prévaut et il y a urgence. Boualem Sansal, âgé de 80 ans, est malade. Il souffre d'un cancer. Désormais, tous les regards sont tournés vers la présidence algérienne. Selon plusieurs sources, des garanties ont été apportées sur une prochaine libération sans condition. Reste à savoir si le régime honorera ses promesses en cas d'échec. La stratégie du Quai d'Orsay, donc d'Emmanuel Macron, serait alors mise à mal face aux partisans d'un bras de fer plus musclé et notamment d'une logique de riposte graduée avec le régime algérien.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1, 6h49, une nouvelle pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et notamment du côté de l'actualité judiciaire, la saisie de 2,5 tonnes de cocaïne au large du territoire.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
À la recherche d'une voiture d'occasion. Direction les occasions du village automobile au PK4 à Nouméa. Plus de 200 véhicules d'occasion révisés garantis vous attendent. Citadine agile, pick-up robuste ou SUV racé. Vous avez le choix au meilleur prix. Le financement, nous avons les solutions. Alors, inutile de chercher ailleurs, car les occasions du village automobile, c'est le grand parc d'occasion de Nouvelle-Calédonie. Rendez-vous au village automobile au PK4 à Nouméa, à côté de la Save Express, au 41 45 08 ou sur Facebook. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
Et une enquête ouverte pour trafic de stupéfiants en mer après l'interception d'un navire par la Marine nationale le 25 juin dernier. Le patrouilleur outre-mer Auguste Bénébigue, appuyé par un gardien de la Marine, a raisonné un navire suspect à près de 400 000 nautiques de Nouméa. Léa Colombo.
Le bateau à moteur SM Dante naviguait dans les eaux internationales avec une cargaison de 2,5 tonnes de cocaïne trouvée dans sa soute. Une opération coordonnée par l'État, les FANC, la police judiciaire et la direction territoriale des douanes. Sept membres de l'équipage, composé de 2 Portugais et de 5 ressortissants équatoriens, ont été placés en garde à vue le 29 juin dernier. Il ressort des premiers éléments de l'enquête que le navire aurait quitté le Pérou en mai dernier sans avoir effectué d'escale et devait rallier l'espace maritime australien à un point déterminé pour réaliser un transbordement de la drogue dans des hors-bords, puis dans un autre navire. Les stupéfiants étaient donc destinés au marché australien. Dans un communiqué, le Haut-Commissariat de Nouvelle-Calédonie s'est félicité de cette opération menée par la France pour lutter contre le trafic illicite en zone maritime.
En bref, la maison des solidarités de Poya fermée temporairement en raison de dégradation des locaux. Lors d'un vol par effraction, du matériel a été dérobé, dont une débroussailleuse et un cuiseur à riz. La mairie de la commune a donc décidé de fermer les portes de l'établissement jusqu'au 15 juillet inclus. Sur Facebook, la municipalité déplore ces agissements qui, je cite, « remettent en question la continuité des actions solidaires menées au bénéfice des personnes les plus démunies ». Fin de citation.
À Radio Rythme Bleu, 6h52.
Et depuis lundi, le site minier SLN de Népouy est bloqué. Dans un communiqué, l'industriel a rappelé hier le respect des règles et alerte sur un risque économique majeur, Léana.
Oui, le conflit a été déclenché à l'occasion de l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gardiennage. La SLN rappelle que ce contrat a été attribué à l'issue d'un appel d'offres rigoureux. Cette entreprise locale avait répondu à la consultation et le choix reposait sur une évaluation technico-économique précise. Elle a été réalisée dans le strict respect des règles de mise en concurrence, souligne la SLN, qui ajoute que les emplois ont tous été maintenus. Les salariés qui assuraient la sûreté du site conservent leur emploi et leurs contrats ont été transférés vers le nouveau sous-traitant. La SLN s'inquiète des conséquences de ce blocage. S'il devait se prolonger, il pourrait conduire à l'activation d'une clause de cas de force majeure, entraînant dans un premier temps la suspension des contrats de sous-traitance. Une telle issue aurait des conséquences économiques immédiates et potentiellement dramatiques pour l'ensemble du bassin d'emploi local. De plus, le site de Thiot est toujours inaccessible. Le minerai de Kouawa ne peut être évacué depuis l'incendie de la Serpentine en mai 2024. Et l'arrêt de Népouy compromet l'approvisionnement de l'usine de Doniambo et menace la continuité de toute la chaîne industrielle.
Un coup dur pour la province des îles. Alors qu'il n'est même pas encore ouvert, le complexe hôtelier du Ouadraben à Lifou a été placé en redressement judiciaire. Une période d'observation de 6 mois a été prononcée par le tribunal de commerce. Le Ouadraben représente un investissement de 5 milliards financé par la Sodil et par l'État au travers notamment de la Banque des Territoires. Mais il est allé de déconvenu en déconvenu et les violences insurrectionnelles de mai 2024 ont sans doute signé son arrêt de mort. Son exploitant, la SAS Gigadex, doit désormais rembourser les dettes qui se sont accumulées, comme l'explique le président de la Sodil, Jacques Dralu.
La décision du tribunal, c'est parce que la société Gigadex a engendré des dettes. Et aujourd'hui, le tribunal constate que ces dettes qui sont exigibles ne peuvent pas être remboursées. Les principales dettes de Gigadex, il y a une dette, c'est les entreprises qui ont travaillé sur le chantier. Donc il y a encore pas loin de 150 millions à leur devoir. Il y a aussi des investisseurs locaux, puisque on le dit pas assez, mais le financement de Ouadraben, c'est pas loin de 40% de fonds privés, donc des investisseurs métropolitains. Il y a une défiscalisation métropolitaine, mais il y a aussi une défiscalisation locale. Et donc aujourd'hui, les délais sont passés, il faut rembourser les investisseurs locaux.
Et cet établissement de 5 étoiles portait pourtant tous les espoirs de la province des îles. Il devait à la fois promouvoir la destination à l'international et créer une 50aine d'emplois. Le tribunal de commerce a donné 6 mois aux investisseurs pour reconsidérer la situation. C'est en novembre qu'il statuera définitivement sur l'avenir de ce qui devait être le joyau touristique des îles Loyauté. Et puis la bibliothèque Bernheim dans le viseur de la Chambre territoriale des comptes. Saisie par le haut-commissaire, la CTC a rendu un avis pointant la situation budgétaire critique de l'établissement après l'adoption d'un budget primitif en déficit, Léana.
Depuis 2019, la structure fait face à une baisse de 24,5% de ses recettes et une hausse de 19,5% de ses charges, conséquence notamment due au désengagement progressif de ses financeurs. La Chambre juge impossible le retour à l'équilibre sans plan de redressement. Wally Waïcha, présidente du conseil d'administration de la bibliothèque Bernheim, détaille les changements en cours.
L'une des préconisations, notamment de la CTC, de discuter avec les financeurs et de voir comment on peut arriver à garantir le soutien financier de nos établissements publics. On a des difficultés aussi à baisser la masse salariale, mais il y a eu déjà des non-renouvellements des personnes, des agents qui vont à la retraite. Là, en ce moment, au niveau de la bibliothèque Bernheim, il y a déjà 9 agents qui sont en temps partiel. Il y a une réflexion aussi dans le plan de redressement d'augmenter certaines de nos prestations. Donc, il y a une réflexion véritable qui se fait au niveau de l'équipe, au niveau du CA et au niveau de l'établissement, et c'est en cours de procédure.
Un nouveau budget a déjà été adopté, permettant à la bibliothèque de tenir jusqu'à la fin de l'année. Le plan de redressement présenté est pour l'instant un avant-projet. Son adoption définitive est prévue pour le mois de septembre.
Le groupe UC-FLNKS et Nationaliste du Congrès dépose une résolution pour reconnaître et déclarer l'urgence sociale en Nouvelle-Calédonie. Il attendait l'examen du compte administratif 2024 pour annoncer cette initiative qui prend en compte la grande détresse économique et sociale du territoire. Pour le groupe UC, le 13 mai n'a été que le révélateur d'une crise dont il faut aujourd'hui s'attaquer aux causes. Cette résolution d'urgence sociale permettrait de mobiliser des dispositifs juridiques, budgétaires et humains exceptionnels, de donner un cadre aux actions solidaires menées par la société civile et de restaurer la confiance de la population, selon le groupe. Cette résolution a été présentée hier matin par Pierre-Chanel Tutugoro, le président du groupe UC-FLNKS, et par deux élus UC, Maria Waka et Ren Hué. En bref, Inachne Kanaki est réunie depuis hier en Assemblée Générale à Point-d'Imier. Il y a eu des travaux en atelier concernant notamment la vision autochtone des droits de l'homme ou encore sur le droit international. Et aujourd'hui, les chefferies et autorités coutumières devront faire le point sur l'organisation d'une mission qui partira à Bakou en Azerbaïdjan. Un rendez-vous sur notre antenne. La Banque alimentaire recherche un doc urgemment. L'association s'inquiète alors que le doc qu'elle occupe pour ses activités mises à disposition par l'OPT ne sera plus disponible en fin d'année. Et pour l'instant, elle n'a pas de solution de rechange. Nous en parlerons tout à l'heure avec la présidente de la Banque alimentaire, Betty Levanquet, qui sera notre invitée ce matin à 7h30. En attendant, il est 6h57. On marque une dernière pause publicitaire avant de voir toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Envie d'une pause déjeuner à l'Escale Château Royal? Du lundi au vendredi, votre restaurant L'Escale vous propose sa formule déjeuner comprenant un plat, un dessert, un café ou un thé pour 3900 francs seulement. 3 suggestions vous seront proposées afin de satisfaire vos envies du moment. Important, votre restaurant prend de la hauteur. L'Escale s'installe temporairement à l'étage, au même niveau que la réception. Réservez dès maintenant au 23 01 30 et retrouvez plus d'infos sur notre page Facebook Château Royal.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser son million. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bons d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur. Alors n'hésitez plus. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Chaque SMS compte pour le tirage du million le 4 juillet à 14h. 371 francs par SMS. Règlement du jeu disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance. Envoyez RRB au 40-20.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
Info matin, le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et direction Palau pour parler des mini-jeux.
Suivez les mini-jeux du Pacifique avec Toyota Location. Les mini-jeux du Pacifique, c'est aussi avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Et au deuxième jour des mini-jeux du Pacifique, la délégation calédonienne a récolté de nouvelles médailles, toutes encore une fois en natation.
Et pas d'or pour cette nouvelle journée de compétition, mais tout de même de bons résultats dans les bassins de Koror. Clara Delunel remporte la médaille d'argent aux 400 mètres 4 nages. Deux nouvelles médailles de bronze sont également à ajouter au compteur. Camille Gercé est arrivée troisième aux 800 mètres nage libre et Manon Baldovini termine le podium aux 50 mètres brasse. On notera la performance de Yaron Nodange qui a terminé quatrième sur la finale du 50 mètres brasse. Malheureusement, nos cagous n'ont pas réussi à décrocher deux médailles dans la course du relais 220 mètres 4 nages mixtes. Ils sont arrivés en cinquième position.
Et il y avait également du volley en parallèle de ces finales de natation et c'est une entrée en lice réussie pour les Calédoniens.
Les volleyeurs calédoniens figurent dans un groupe où ils devront affronter la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Nauru. Ce sont ces derniers que les cagous ont affrontés hier soir. Victoire en 3-7. Une belle entrée en matière pour ces joueurs qui jouaient pour certains leur premier premier match dans des mini-jeux, explique Ernest Calému.
Ça va, ça s'est bien passé. Les garçons, ils se sont bien battus pour une première pour certains et une deuxième pour d'autres. C'est un bon début, surtout que demain, il y a un match qui nous attend contre PNG. Voilà, on a pu régler quelques petits défauts. On a pu faire jouer tout le monde. Et voilà, maintenant, tout le monde a goûté un match de mini-jeu et on reviendra encore plus fort et on essaiera d'aller chercher la victoire.
Pour le moment, nos cagous ont donc remporté 9 médailles, 2 en or, 1 en argent et 6 de bronze. Au programme de ces mini-jeux aujourd'hui, encore de la natation, ce sera à 19h, du tennis de table à 12h30, du beach volley chez les dames à 18 et 21h, mais aussi du vélo, du volleyball et ce sera à 13h.
Page spéciale mini-jeux du Pacifique, résultats, réactions. Suivez chaque jour les cagous sur RRB avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Les mini-jeux du Pacifique vous ont été proposés par Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs par jour. Seulement 3900 francs par jour. Toyota Location à Nouméa, Kone et Lifou. Un seul numéro, 24 28 28.
Et on termine cette page sport avec un mot de tennis. La suite du premier tour de Wimbledon et un nouvel exploit tricolore sur le gazon londonien. Arthur Hinderknecht a écarté le numéro 3 mondial Alexander Zverev en 5-7 et 4h39 de jeu. Le Français retrouvera Garin au deuxième tour. Match marathon aussi pour Arthur Cazaux qui a battu l'Australien Adam Walton en plus de 4 heures. Le Montpelliérain rejoint Demi-Nord au deuxième tour. Quant à Corentin Moutet, il a battu Francisco Comesana. En revanche, Giovanni Empecci-Pericard peut nourrir des regrets. Il a frôlé l'exploit face à Taylor Fritz, mais il est éliminé dès le premier tour.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et il fait gris, Thierry.
Oui, nous sommes en vigilance jaune avec de fortes pluies et des orages pour aujourd'hui. La nuit prochaine, sur la côte est de Yangan-Ayaté, sur la côte ouest Poya, jusqu'au Mont d'Or, l'île des Pins et les Loyautés. Des averses localement fortes et orageuses, elles pourront donner des cumuls de précipitations importants et ça se voit déjà ce matin. Le temps sera gris et pluvieux. Pour la matinée, l'extrême nord et les Loyautés, les précipitations sont rares et faibles. Ailleurs, les pluies ou averses sont fréquentes, parfois fortes ou orageuses. Sur le sud de la Grande Terre, sur l'est, les Loyautés et l'île des Pins, on parle du vent à présent, il sera orienté au nord pour ce matin. 15 à 20 nœuds, localement sur l'extrême sud, 20 à 25 nœuds et des rafales prévues jusqu'à 30 nœuds. Cet après-midi, le ciel restera souvent couvert avec des averses. Celles-ci resteront faibles sur le nord, parfois fortes et orageuses sur les Loyautés et le sud, sur l'est et l'extrême sud, ainsi que sur les Loyautés. Le vent orienté nord, toujours pour cet après-midi, 15 nœuds. Ailleurs, il sera compris orienté ouest entre 5 et 10 nœuds. Les températures, elles, seront comprises entre 24 et 28 degrés en général.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.